L'énergie, essentielle à toute forme de vie, n'a jamais manqué sur notre planète. Ce système très complexe fonctionnait à merveille jusqu'à ce que... Oui, jusqu'à ce que nous arrivions et que nous venions tout chambouler. Nous avons ainsi créé de nouveaux flux d'énergie pour des activités indispensables à notre quotidien et d'autres beaucoup moins.
On a vraiment besoin d'énergie partout.
Mais à terme, les choses pourraient bien se gâter.
Pour deux raisons essentiellement. D'abord parce que la population humaine depuis l'année 1800 a été multipliée environ par 8 et que par ailleurs, chaque humain en moyenne consomme 4 fois plus d'énergie.
Chaque jour, nous consommons tellement d'énergie que nous modifions progressivement les conditions de vie sur Terre. Et pas forcément dans le bon sens. Ne vaudrait-il pas mieux trouver une énergie à la fois inépuisable et capable de préserver le système Terre ? Mais où peut-on donc dénicher cette énergie parfaite ? Lorsque ce train a été construit, personne ne s'est soucié du CO2 qu'il rejetait. On était déjà bien content qu'il roule.
Donc on peut, depuis à peu près 1800, commencer à avoir quelques valeurs un peu précises de la puissance dont disposait l'humanité. Et en 1800, l'humanité disposait d'environ 600 milliards de watts et cette puissance a augmenté considérablement jusqu'à atteindre maintenant à peu près 20 000 milliards de watts par l'empilement des différentes sources d'énergie que l'humanité a utilisées.
Une quantité d'énergie phénoménale qui est le résultat de notre quête incessante de nouvelles sources d'énergie.
D'abord la biomasse, le bois, puis le charbon, le pétrole, le gaz, l'énergie nucléaire, l'énergie éolienne, l'énergie photovoltaïque, l'énergie hydraulique. Toutes ces énergies se sont empilées les unes sur les autres.
Et la consommation d'énergie ne cesse d'augmenter dans le monde entier. N'est-il donc pas grand temps de chercher l'énergie parfaite? Sauf que, c'est quoi une énergie parfaite? Nous vous avons également posé la question. Selon vous, une énergie parfaite doit être toujours disponible et abordable. Elle ne doit pas non plus produire de déchets. Et pour que nous en consommions le moins possible, elle doit être suffisamment efficace. C'est là que le bât blesse. Car qui dit grande quantité d'énergie, dit aussi nombreuses ressources à exploiter. Et cela pèse sur le système Terre. Mais qu'en est-il lorsque la source d'énergie est minuscule ?
Alors, toutes les énergies auxquelles nous avons accès n'ont pas la même densité, c'est-à-dire elles ne nécessitent pas la même quantité de transformation pour produire une certaine quantité d'énergie.
La quête de l'énergie parfaite n'est-elle donc qu'une question de densité énergétique de sa source ?
Donc pour une même quantité d'énergie produite, vous allez avoir besoin de 100 grammes d'uranium et d'une tonne de pétrole. Donc ça va vous donner une efficacité énergétique incroyable.
Ok, mais alors, doit-on donc miser entièrement sur l'énergie nucléaire ?
L'équation d'Einstein nous dit que énergie égale masse. Vous allez voir que finalement, l'atome, il est constitué de vide. Et en fait, il y a un point au centre qui va concentrer toute la masse, 99,999% de la masse, c'est le noyau de l'atome. Donc si vous imaginez que finalement, la masse est de l'énergie, bah, vous voyez que vous réussissez à récupérer énormément d'énergie.
Lorsque cette énergie a été découverte au cœur même de la matière, elle semblait presque parfaite.
Alors, l'épopée, moi je vais l'appeler l'épopée de la radioactivité, c'est assez extraordinaire, c'est une histoire qui est fantastique, qui est passionnante.
Mais dans cette histoire fantastique, le hasard a probablement joué un grand rôle. En février 1896, le physicien Henri Becquerel réalise des expériences avec des sels d'uranium qui, lorsqu'ils sont exposés à la lumière du soleil, se mettent à briller. Mais comme le soleil parisien joue à cache-cache, le scientifique suspend son expérience et range ses sels d'uranium au fond d'un tiroir. Quelques jours plus tard, il constate que la plaque a noirci. Même dans l'obscurité totale, l'uranium a donc impressionné la plaque.
Là, il commence à se dire « Ah, il y a quelque chose, il y a un rayonnement qui sort, il sort tout le temps, il perdure dans le temps, qu'est-ce que ça peut être ?» Et là, il était en train en fait, de découvrir la radioactivité.
Et très vite, il constate que la radioactivité émet aussi de la chaleur, et donc que les noyaux atomiques doivent sûrement renfermer beaucoup d'énergie.
Au début, ils n'étaient pas complètement conscients finalement de cette colossale énergie, et c'est venu petit à petit.
Jusqu'à ce qu'ils se demandent comment accéder à cette énergie. Là aussi, le hasard est venu s'immiscer dans la recherche. Après avoir bombardé de l'uranium avec des neutrons, les chimistes allemands Otto Hahn et Fritz Strassmann détectent dans leur échantillon des substances inattendues. Au lieu d'un atome au noyau plus lourd, ce sont deux atomes au noyau plus petit qui se sont formés. Déconcerté, Otto Hahn écrit à Lise Meitner, sa collaboratrice de longue date qui se trouve alors en Suède.
C'est Lise Meitner qui va comprendre la première en 1938 et elle va découvrir la fission et elle va dire « Ben non, en fait, lorsque vous envoyez un neutron sur l'uranium, et ben cet uranium va se casser en deux. Quand on perd de la masse, et ben on gagne de l'énergie. »
Et voilà comment on a découvert le moyen de produire de l'énergie à partir de la fission nucléaire. Une méthode décrite par l'équipe de Frédéric Joliot-Curie dans un brevet quelques mois avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Dans un premier temps, la fission nucléaire n'est pas utilisée pour produire de l'énergie, mais pour fabriquer une bombe. Ce n'est que 6 ans après la Seconde Guerre mondiale que l'on produira pour la première fois de l'électricité à partir de l'énergie nucléaire. On est donc encore loin de la perfection. S'il n'y avait qu'une formule à retenir, ce serait « réaction en chaîne ».
Si on explique la réaction en chaîne de manière simple, il faut voir qu'au début, vous avez une réaction de fission, donc un neutron et un noyau d'uranium. Le neutron est mangé par le noyau d'uranium, ça le déstabilise et il se casse en deux. Mais il ne se casse pas seulement en deux, parce qu'en fait, à chaque fois, il va y avoir 3 neutrons en plus qui sont émis. Donc en fait, le bilan, c'est un neutron qui fait une fission qui donne 3 neutrons. À chaque fois que vous avez une fission, vous avez production de 3 neutrons. Ces 3 neutrons vont aller faire 3 autres fissions qui vont encore produire 3 autres neutrons, etc., etc., etc.
Laisser cette réaction en chaîne se produire librement engendre une violente explosion atomique.
L'équipe de Joliot-Curie, ils se sont tout de suite vus, ils se sont dit, bah, si on garde ce un seul neutron et que l'on le met dans un milieu où il y a de l'uranium-235 à nouveau, eh bien, vous allez pouvoir faire une nouvelle fission. Donc vous fermez le cycle et vous faites ce qu'on appelle une réaction en chaîne.
Une réaction en chaîne contrôlée. Voilà ce qui se passe dans une centrale nucléaire. Sauf que contrôlée ne signifie pas pour autant qu'elle est sans danger. Un risque appréhendé différemment selon les pays. Quels risques sommes-nous prêts à prendre pour préserver nos modes de vie modernes? Une chose est sûre, si nous parvenons à trouver une énergie sans risque, elle se comportera un peu comme de l'eau.
Si vous avez un petit robinet d'eau, une petite source qui coule assez modestement, mais qui coule tout le temps, vous avez accès à de l'eau sous forme d'un flux. Alors maintenant, quand vous avez de l'eau, par exemple, dans une gourde, vous avez un certain stock d'eau dans cette gourde, par exemple 1 litre. Si vous êtes assoiffé, vous ouvrez votre gourde et vous pouvez boire goulûment cette eau, glou glou glou, très très vite.
Les ressources renouvelables permettent un approvisionnement permanent. En revanche, on ne peut pas maîtriser les quantités produites. Nous pouvons certes puiser dans les énergies fossiles autant que nous le souhaitons.
Et en revanche, quand le stock est épuisé, il n'y a plus rien.
Mais alors, si on doit cesser en urgence de consommer toute notre énergie, où peut donc bien se trouver notre source d'énergie parfaite? Avec la chaleur du soleil, l'eau de mer s'évapore pour devenir des nuages. Quand elle retombe sur Terre en altitude, c'est sous forme de pluie qui alimente les rivières et les lacs. Lorsque l'eau s'écoule vers la vallée, il suffit alors d'utiliser son énergie cinétique. La plupart des formes d'énergie ont un lien avec le soleil. Même les énergies fossiles sont en fin de compte de l'énergie solaire convertie. Tout comme l'énergie contenue dans les céréales. Ou même dans ses croissants.
Cette nourriture que nous ingérons, in fine, elle était issue de plantes qui ont éventuellement nourri des animaux et nous mangeons des plantes et des animaux. Mais d'où vient toute cette alimentation? In fine, ça vient de la lumière du soleil.
Mais alors, si presque toute l'énergie provient du soleil, n'est-ce pas par là qu'il faut commencer notre recherche? Par le soleil?
La puissance reçue par l'ensemble de la Terre, la partie éclairée de la Terre, est 10 000 fois supérieure à la puissance consommée par l'humanité. Donc on reçoit une quantité considérable d'énergie chaque seconde de la part du soleil.
En d'autres termes, si nous pouvions convertir ne serait-ce qu'une fraction de l'énergie solaire en énergie utile pour nous, tous nos problèmes énergétiques seraient réglés. Edmond Becquerel est le premier à s'être intéressé à l'exploitation de l'énergie solaire. S'inspirant des plantes qui se servent de l'énergie solaire pour fabriquer du sucre, ce physicien a créé un dispositif permettant de convertir la lumière du soleil en électricité. Il construit alors la première installation photovoltaïque, à peine 60 ans avant que son fils Henri ne découvre la radioactivité. Aujourd'hui, l'énergie solaire est captée au moyen de semi-conducteurs. Mais l'avenir de l'énergie solaire dépend aussi de nouveaux matériaux, comme la pérovskite. Elle peut être façonnée en couches plus fines qu'un cheveu humain et convertir la lumière du soleil en électricité de manière très efficace. Sommes-nous à deux doigts de trouver l'énergie parfaite ? Dans une ville comme Berlin, l'ensoleillement moyen sur l'année est tel que la lumière du soleil permet de produire à peine 130 watts par mètre carré. Même à midi, en plein soleil, on atteint environ 1000 watts, ce qui ne suffirait pas à alimenter une bouilloire électrique standard. Pour faire bouillir de l'eau, il en faudrait le double. Le soleil fournit certes une sorte d'énergie parfaite, disponible en permanence, propre et en énorme quantité. Mais jusqu'à maintenant, nous ne sommes pas encore parvenus à l'exploiter efficacement. Est-ce vraiment judicieux de vouloir puiser de l'énergie dans une source qui se trouve à 150 millions de kilomètres de nous ?
La Terre est née chaude et elle s'est refroidie et s'est formée une croûte de surface de solidification. Et donc il reste encore une trace de cette chaleur de formation dans les entrailles de la Terre. Mais encore, et surtout, essentiellement même, la chaleur qui vient de la désintégration radioactive de l'uranium qui est contenue dans le volume de la Terre. Cette chaleur, on peut l'utiliser, ça s'appelle la géothermie.
Serait-ce là l'énergie parfaite que nous recherchons ? Un four brûlant sous nos pieds où sommeillent d'énormes quantités d'énergie qui n'attendent que d'être exploitées ? Une énergie infinie, propre et disponible à volonté ? Elle l'est du moins pour des pays comme l'Islande, qui sont presque entièrement recouverts de volcans et sont en quelque sorte en connexion directe avec les entrailles de la Terre.
Il y a de nombreux autres endroits où c'est beaucoup plus difficile. Donc la géothermie est une énergie tout à fait intéressante, tout à fait fascinante aussi par certains aspects, mais qui n'est pas à l'ordre de grandeur nécessaire pour les besoins énergétiques de l'humanité.
Tout comme pour le soleil, une source d'énergie idéale, mais difficilement accessible. Y aurait-il tout de même une petite lueur d'espoir ? Quelque chose qui nous aurait échappé ? Vous avez proposé de tirer profit des salles de sport. Ce n'est pas une mauvaise idée quand on sait toute l'énergie qui y est dépensée. Mais cela suffirait-il à subvenir aux besoins énergétiques de l'humanité tout entière ? Ah, si seulement on pouvait capter la foudre, ou mieux encore, accéder à l'énergie des étoiles.
Il n'y a pas d'énergie magique. L'énergie, elle quantifie les transformations de la matière. Ces transformations, elles se font sous l'action de ce qu'on appelle en physique des interactions. Il se trouve qu'il y a quatre interactions fondamentales. La gravitation, l'interaction électromagnétique et les deux interactions nucléaires.
Et rien qu'avec ces quatre interactions, on peut expliquer tous les phénomènes énergétiques.
La gravitation, elle fait couler l'eau spontanément du sommet des montagnes vers la mer. En interposant une machine sur ce flux d'eau naturel, en qui la fait tourner, cette machine, on va la transformer, le mouvement de l'eau, en électricité. C'est ce qu'on appelle l'hydroélectricité. La chimie, c'est vient de la combustion, des combustibles fossiles par exemple. La chimie, elle est réglée par l'interaction électromagnétique. Donc c'est exactement ça que nous utilisons. Et l'interaction nucléaire, bien sûr, on l'utilise dans les centrales nucléaires. La désintégration radioactive des noyaux d'uranium qui sont à l'intérieur, il n'y a pas de nouvelles sources d'énergie disponibles.
La mauvaise nouvelle, c'est que les chances de découvrir une nouvelle source d'énergie encore inconnue sont plus ou moins nulles. La bonne nouvelle, en revanche, c'est que nous n'avons pas encore parlé de l'une de ces interactions. Se pourrait-il que nous n'ayons vu que l'arbre et pas la forêt qu'il cachait ? Et si l'énergie parfaite produite par le soleil venait plus précisément du cœur même de notre étoile ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le soleil brillait et que ce charbon provenait de